Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La théorie du genre. Pour certains, la seule évocation de ce mot suffit à réveiller colère et passion. Pour d'autres, cela ne provoquera qu'un simple haussement d'épaule. Le genre existe-t-il vraiment? Est-il dangereux? Si oui, pourquoi? Quelle vision de l'homme et de la vie sous-tend-il? Quelle présence de cette théorie dans les écoles? Réponse avec Michel Boyancé, doyen de l'IPC, de passage à Toulouse. Michel Boyancé, bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc vous êtes de passage à Toulouse, vous donnez des cours pour un cycle de master, si je me trompe pas. Et donc c'est l'occasion avec vous d'évoquer donc cette question du théorie du genre, du gender, comme je disais en introduction. Donc vous êtes aussi l'auteur, je redonnerai le titre de votre ouvrage à la fin de cette émission, « Homme-femme entre identité et différence » aux éditions Les Presses universitaires de l'IPC. Peut-être avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous pouvez peut-être nous dire un mot de l'IPC, donc faculté de philosophie et de psychologie à Paris, qui n'est pas connue de tout le monde. Alors dites-nous tout rapidement sur l'IPC peut-être.
Oui, alors c'est important parce que nous sommes dans les phases d'orientation post-bac, donc ça peut intéresser des jeunes. Donc à Paris, il y a une faculté libre, l'IPC, qui a été créée dans les années 60 et qui délivre deux diplômes, une licence de philosophie, une licence de psychologie. Avec un cadre d'école, hein, voilà, intermédiaire entre les classes prépa et les facs, pour donner aux étudiants un suivi, une formation, et on est bien sûr en lien avec les instituts catholiques. D'ailleurs, on a une convention avec l'Institut catholique de Toulouse, hein, c'est pour ça que je suis là actuellement pour donner un cours en master. Donc c'est une faculté qui a 250 étudiants et qui est au centre de Paris, enfin près d'Enfer Rochereau, dans le 14e. Avec donc cette double formation, et d'ailleurs pour le genre on va en parler, il faut une expertise aussi sur ces disciplines que sont la philosophie, la psychologie, la sociologie. Hein, voilà. Et après nos étudiants, ils continuent soit chez nous en quatrième année, cinquième année, soit ils vont dans des masters à Paris.
Alors, cette introduction faite, rentrons dans le vif du sujet. Donc, le concept de genre, le gender, donc c'est, évidemment, on le lit beaucoup dans l'actualité, on en a énormément entendu parler à l'occasion de la manif pour tous. Peut-être faut-il revenir à l'origine, quand est-ce qu'est né ce concept de genre? Alors, en préparant l'émission, je tombais sur ce psychologue John Money, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, qui serait donc un des pères de cette théorie du genre, donc du gender, vous me direz s'il faut faire une distinction entre les deux, et ce John Money qui était une espèce d'apprenti sorcier d'une certaine manière, puisqu'il y a un célèbre cas autour de lui qui s'appelle Johan, où donc des enfants avaient des problèmes, on va dire, génitaux, en fait, à la naissance, et il a incité les parents à les éduquer, on va dire, de manière indifférenciée. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce père, peut-être, du genre?
Alors, effectivement, John Money donc est un psychiatre, psychologue des années 50, et il est mort en 2006, hein, il est né en 1921. C'est un cas emblématique d'une dérive du genre. On peut en parler, il faut en parler, mais je dirais que c'est un cas un peu à part. C'est un cas de dérive importante. Ce qu'il faut souligner, vous avez employé les mots concept de genre, théorie du genre. En fait, il y a un concept de genre qui est scientifique et qui est pertinent. Hein. Il ne faut pas se tromper, si vous voulez, sur le sujet. C'est-à-dire que il n'y a pas de théorie du genre au sens strict du terme. Il y a une théorisation du concept de genre, ou pour être plus précis, il y a des théorisations du concept de genre. Dans mes travaux, dans mon ouvrage, je propose une lecture du genre, qui est une lecture différente de ce qu'on a vu, bien sûr, dans les années récentes, et qui est une lecture, en fait, philosophique et idéologique. Mais il peut y avoir une pertinence au concept, et c'est important parce que les sciences évoluent, et les sciences forgent des nouveaux sens aux mots, qu'on appelle des concepts, et en l'occurrence, c'est pertinent. Alors, John Money, c'est un cas
Parlez-nous de ce cas, et puis voilà. Travail, vous nous direz en quoi, scientifiquement, voilà. Il y a des choses...
En fait, John Money, donc, dans les années 50, il était un des médecins qui s'est penché sur une vraie question, qui est ce qu'on appelle l'intersexuation maintenant, qu'on appelait avant... l'hermaphrodisme, c'est-à-dire des enfants qui naissent sans différenciation sexuelle biologique très marquée. Dans le cas de Johan, de ce garçon, c'est un peu différent. Il a été mutilé à la naissance par une circoncision ratée. Et donc c'était deux jumeaux, deux frères, et l'un des deux a subi donc une mutation du pénis lors de la circoncision. Et John Monet a voulu en faire un cas d'école, un cas d'expérience, et ces deux jumeaux ont été dramatiquement traités par John Monet, à telle enseigne qu'ils se sont suicidés tous les deux à l'âge adulte. Et donc effectivement ça a été un Docteur Follamour, hein, enfin une espèce de médecin qui a voulu expérimenter une théorisation du genre en disant en fait c'est pas le biologique qui fait le sexe, c'est la culture, l'éducation. Donc il a dit aux parents, puisqu'il n'y a plus de pénis, on va opérer ce garçon, lui enlever les organes masculins et à l'adolescence on lui fera une vaginoplastie, on va lui mettre un faux vagin et on va l'éduquer en fille. En fait c'est un complètement raté et ça a été un drame pour ce garçon, un drame pour son frère jumeau et un drame pour les parents. Donc c'est un cas très intéressant, à la fois d'une pertinence d'un concept, ça j'y reviendrai, et en même temps d'une dérive très grande. Alors aujourd'hui, on n'a plus bien sûr ces dérives-là, puisque...
Alors quelle pertinence du concept peut-être ?
Alors le concept est tout simple.
Parce que c'est vrai qu'on vous racontait ce qu'il y a là, on a du mal à comprendre qu'il puisse y avoir quelques pertinences.
Il y a une pertinence toute simple, c'est que quand vous étudiez l'être humain, vous ne pouvez pas dire que la différence sexuelle se réduit au biologique. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas déterminés par le biologique. Nous avons en nous toute une vie psychologique, toute une vie sociale, toute une vie liée à l'état civil, qui fait que la construction de la personnalité n'est pas liée uniquement au processus biologique du sexe. Il y a, comme on dit, un sexe psychologique, un sexe social, une culture sexuée donnée par les sociétés, qu'on a appelé dans les années 50-60 par le mot anglais de gender. Donc on a pris, si vous voulez, le mot gender qui désigne le sexe grammatical en anglais, hein, le masculin-féminin, le genre masculin-féminin, et on a étendu ce sens à des phénomènes psychiques, à des phénomènes psychologiques qui sont pertinents parce que éduquer un garçon ou une fille, c'est pas seulement l'éduquer à la mécanique biologique, c'est aussi l'éduquer à sa vie intérieure, psychologique de son sexe. Et donc, il y a effectivement une dimension psychologique du sexe. Et John Monet a voulu, en fait, faire l'expérience que le biologique n'a aucun lien. Aucun rapport avec le sexe. Et donc, le sexe devient que culturel. Et c'est une dérive très grave.
Donc, cette théorie du genre, enfin, dire, précède ce fameux John Monet.
Disons, John Monet le concept de genre est un concept qui a été forgé pour distinguer le sexe biologique du sexe psychologique et social qu'on a appelé le gender. Et John Monet a voulu radicaliser la différence en disant donc le biologique est complètement soumis à l'éducation au culturel et au social. Et en fait, ça a raté. Mais l'intérêt, parce que John Monet est un parmi beaucoup de psychologues et de psychiatres, mais l'intérêt de cette catégorisation scientifique, c'est de mettre l'accent sur le fait que nous ne sommes pas tout biologiques, nous ne sommes pas uniquement soumis aux mécanismes purement biologiques, qui ont en nous une dimension psychologique.
Est-ce à dire que ce qu'on a beaucoup entendu parler pendant la manif pour tous, ce qu'on appelle la loi naturelle, cette loi naturelle n'a pas qu'un fondement dans ces cas-là psychologique ?
Alors,
biologique.
Disons, pour revenir aux manifs, il y a une erreur qu'on fait les mouvements opposés à cette loi, comme d'ailleurs lors de l'apparition des manuels de SVT en 2011, hein, ça date d'avant les manifs pour tous, c'est d'attaquer le gender en disant ce n'est pas scientifique. Si, le gender est scientifique. Le concept de genre a une pertinence en psychologie, en sociologie et même en psychiatrie. Par contre, là où il y a une dérive idéologique, c'est qu'on lui fait dire ce qu'il ne dit pas, ce concept de genre, ce pauvre concept de genre. Mais en l'attaquant, en disant le genre, c'est pas scientifique, en fait, on s'est trompé de cible. Hein, c'est comme si on dit l'évolution, c'est pas scientifique. Bah, si, il y a des faits qui laissent supposer qu'il y a une évolution, la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par évolution, et ici, qu'est-ce qu'on entend par genre. Donc, pour revenir à la question du genre, ou ce qu'on appelait la loi naturelle, il y a en nous une nature qui est un donné, mais c'est pas une loi déterministe. C'est-à-dire que vous avez des personnes dont effectivement l'orientation sexuelle ne correspond pas au sexe biologique. Vous avez des personnes qui ont besoin, tout être humain d'ailleurs a besoin, qu'on soit garçon ou fille, homme ou femme, d'intérioriser, comme on dit, psychologiquement notre sexe biologique. Ça se fait pas tout seul. Ça se fait par la culture et l'éducation. Vous avez donc des cultures et des éducations qui peuvent accroître les différences sexuelles ou qui peuvent les minimiser. Par exemple, il est clair qu'au XIXe siècle, on pensait pour des raisons biologiques, on est dans du scientisme, hein, aussi bien en biologie qu'en psychologie dans ces questions-là, on pensait que puisque les femmes avaient un plus petit cerveau que les hommes, et c'était pas à peine qu'elles fassent des études, hein, c'était du gâchis, elles étaient moins intelligentes que les hommes, autant qu'elles s'occupent des enfants. Donc, on fait l'erreur inverse aujourd'hui, si vous voulez. On a hypertrophié dans une dérive scientifique le côté biologique. Aujourd'hui, on fait la même erreur symétrique, on hypertrophie le côté psychologique et social. Donc il faut revenir à des choses un peu plus sérieuses, un peu plus fines.
Mais quid de la loi naturelle alors? Quand on entend parler, qu'est-ce que ça veut dire la loi naturelle?
La loi naturelle, en fait, c'est un concept.
Dans ce cas-là, ça n'a pas qu'un fondement dans ce cas-là biologique, cette loi naturelle.
Alors la loi naturelle, bien sûr, ne doit pas être réduite au biologique. La loi naturelle, c'est simplement le fait qu'il y a en nous, dans notre existence humaine, une nature, un donné, qui est à la fois biologique, psychologique, qui est spirituel, qui est moral, mais qui n'est pas un donné qui nous détermine absolument. Nous ne sommes pas des animaux. Quand on regarde les mœurs des animaux, effectivement, il y a les mâles et les femelles. Quand on regarde les mœurs humains, heureusement, il n'y a pas que mâle-femelle, il y a aussi toute la dimension, encore une fois, psychique, psychologique, sociale, culturelle du sexe. Si, par exemple, on voile les femmes, c'est pas naturel, c'est culturel. Si on les dévoile, d'ailleurs, peut-être un peu trop aujourd'hui dans nos sociétés, par une symétrie d'ailleurs intéressante à analyser, c'est pas naturel, c'est culturel. Donc nous sommes pas ni une nature pure, ni une culture pure. Nous sommes ce mélange subtil d'un donné naturel que nient effectivement les idéologues du gender. Et en même temps, nous ne sommes pas purement des êtres biologiques, nous avons toute une dimension culturelle, et la culture vient aider la nature à s'épanouir, à se développer. Et il y a des cultures qui sont contre nature, et des cultures qui sont au contraire dans le sens de la nature, effectivement. Mais il n'y a pas une loi au sens, vous voyez, déterministe.
Alors, si on continue un peu ce parcours, on va dire, de genèse et d'explicitation, en fait, de la racine de cette théorie du genre, ou du gender, il faut parler donc des milieux féministes. Alors, ces milieux féministes étaient les milieux féministes américains, mais pas seulement, entre autres autour d'une figure, donc, Judith Butler. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot en quoi ça a joué un rôle important dans le développement de cette théorie?
Alors, effectivement, à partir de la distinction sexe, genre, sexe, gender en anglais, s'est développé non pas une théorie du gender, c'est un peu trop rapide, mais ce qu'on appelle une théorie queer, hein, Q-U-2-E-R. Et Judith Butler est la théoricienne non pas tant du genre que du queer. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Le queer, c'est un mot anglais qui est une injure faite aux personnes homosexuelles ou transsexuelles, un petit peu comme on dit en français PD ou tapette, hein, ce qui est pas très agréable. Donc il y a effectivement un concept de queer qui est un signe de ralliement pour toutes les minorités marginalisées sur le plan sexuel. Judith Butler fait partie de ce qu'on appelle la troisième vague du féminisme, qui d'ailleurs s'oppose à la deuxième vague, c'est-à-dire que la deuxième vague, c'est les féministes des années 60-70, qui revendiquaient la libération de la femme en tant que femme, et non pas la négation de la femme. Judith Butler va plus loin, elle va dire il faut dépasser le sexe et le genre, masculin-féminin, et il faut que le queer soit le signe d'une indétermination dans la sexualité.
Donc elle a cette expression, les lesbiennes ne sont pas des femmes, c'est ça?
Voilà, donc Monique Wittig, qui est une autre féministe, va dire les lesbiennes ne sont pas des femmes, les lesbiennes transgressent le bon. Dans la question de la Lotobira, se sont affrontés en fait ces deux féminismes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a toujours cette discussion, mais le gouvernement notamment a un peu mis profil bas sur cette question. Vous avez des féministes qui revendiquent non pas la disparition de la femme, mais au contraire, l'égalité de l'homme et de la femme, égalité bien comprise entre deux identités, deux êtres humains qui sont bien identifiés dans leur sexualité. Et puis vous avez le queer, alors je recommande aux auditeurs d'aller voir sur le site de Sciences Po Paris la semaine queer, hein, le Queer Week. La Queer Week, c'est une espèce de manifestation que le sexe est un jeu de rôle comme le théâtre, et donc on revêt des différences sexuelles comme on revêt des personnages de théâtre. Donc il y a le trans, l'hétéro, l'homo, le bi, etc., et j'en passe, c'est des meilleurs, hein, parce que ça va très loin, comme si effectivement nous vivions notre sexe comme si c'était un personnage de théâtre, et on peut changer de sexe comme on change de vêtements ou de personnage. Là on est dans le queer, on n'est pas dans le genre, et donc il y a un détournement du genre dans le sens d'une radicalisation du queer, qui est ce féminisme critiqué par les féministes de la deuxième vague, qui consiste à dire, en fait, il faut même plus penser homme-femme, il faut penser individu indéterminé dans le libre jeu des identités sexuelles.
Alors, dans cette théorie du genre, il y a aussi des racines françaises, on peut finir par ça avant de faire une première pause musicale. C'est un certain nombre d'intellectuels français, alors je vous laisserai les citer évidemment, mais Jacques Derrida, Deleuze ou une Simone de Beauvoir ont joué un rôle. En quoi les Français sont aussi un peu les pères de cette théorie du genre et quel rôle ont-ils joué dans ce...
Alors, bien sûr, les Français ont inspiré les études psychologiques, sociologiques et politiques autour du genre aux États-Unis. La French Theory, c'est-à-dire qu'en fait, on peut donner deux grandes sources. Première source, Sartre, Simone de Beauvoir, bien sûr, l'existentialisme radical, l'existence précède l'essence, comme les auditeurs peut-être se souviennent de la fameuse phrase qu'on étudie en terminale, c'est-à-dire je n'ai pas de nature, je n'ai pas de données, c'est moi qui va librement déterminer mon essence dans ce que je choisis librement. L'homme est liberté. Et donc, dans la théorie queer, je préfère dire théorie queer que théorie du genre, dans la théorie queer, il y a cette indétermination radicale que la liberté vient explorer. Et puis, deuxième source, des études psychosociologiques autour, effectivement, de Michel Foucault, qu'il faut citer, ou Pierre Bourdieu avec Jacques Derrida et Gilles Deleuze, mais consiste à dire que... l'individu n'a aucune limite et que le corps n'est qu'un objet qu'on peut travailler librement pour s'affranchir de tous les pouvoirs, toutes les dominations politiques, culturelles qui enferment le corps dans des identités, notamment sexuées. D'où l'idée que l'hétérosexualité est une hétérodomination de la société et qu'il faut se libérer de l'hétérosexualité comme on se libère d'un tyran, d'un pouvoir despotique. Et là, on n'est plus dans la science, on est dans la philosophie militante, dans la philosophie politique militante, et malheureusement en France, les études de genre sont devenues des études militantes sur le plan de l'émancipation de l'individu. Or, il faut distinguer les deux, il faut distinguer un concept qui signifie quelque chose de réel dans la psychologie humaine, et puis une mentalité d'individualisme radical, commun d'ailleurs à tous les grands partis politiques, c'est pas réservé simplement à tel ou tel... courant politique, qui est de dire il faut que l'individu s'émancipe de tout ce qui peut le limiter, y compris l'identité sexuelle. D'où l'idée qu'il y a des identités de genre, multiples, plurielles, contingentes, qui sont aussi légitimes les unes que les autres, dans une grande égalité des identités de genre. Et c'est là où, effectivement, on peut avoir des problèmes avec l'être humain, et d'ailleurs beaucoup de féministes disent attention, la femme est une femme parce qu'elle a un corps de femme, on pense à par exemple Sylviane Agacinski qui a écrit un ouvrage Femme entre sexe et genre qui va dire non,
femme de Lionel Jospin,
femme de gauche, tout à fait féministe dans les au sens qu'on l'entend habituellement, mais qui dit non, ce féminisme là va trop loin.
On fait une première pause musicale et puis après on va creuser encore plus cette théorie du genre. Vous allez nous expliquer exactement en quoi elle consiste, quelle est sa pensée, même si vous avez commencé à le faire, et puis quelles incidences profondes elle a pour tout à chacun ou pour la vie sociale.
Prenez garde à ceux qui n'ont rien, qu'on a laissé entiers dans leur mystère, qui jouent sur les écrans plasma lambda, l'argent que tant de gens espèrent. Masters and servants de leur bureau protégé n'entendent pas l'oiseau qui chante, n'entendent pas l'oiseau chanter. Pressentant comme un danger. Oh, prenez garde à ce qui nous vient, qu'on a laissé au bord du chemin. Rêveur rêvant le monde meilleur, il voit la colère.
Voilà, donc ce matin, une émission genre Faut-il trembler avec Michel Boyancé, doyen de l'IPC, faculté libre de philosophie et de psychologie. Michel Boyancé qui est donc de passage à Toulouse et qui nous fait l'amitié de passer par les studios de Radio Présence. Alors, vous nous avez expliqué un petit peu la genèse de cette théorie, en tout cas avec ce fameux John Monnet, ce cas terrible Joan, son développement dans les milieux féministes et puis ses racines intellectuelles françaises. La théorie du genre, vous l'avez déjà expliqué. Si vous deviez peut-être reprendre ou repréciser votre pensée pour qu'on comprenne bien, c'est donc une différence est faite entre notre sexe de naissance, on va dire, et notre orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de séparation radicale des deux, et c'est grosso modo là qui est la difficulté première.
Oui, en fait, c'est une séparation tout à fait légitime, c'est-à-dire que vous avez des personnes, par exemple, qui ont un sexe biologique bien différencié, parce qu'il y a des troubles de la différenciation, hein, qu'on appelle intersexuation, qui sont très très rares, mais qui existent quand même et qui sont très douloureux pour les personnes, qui sont pas donc, vous voyez, ni vraiment homme ou femme, donc il y a une indétermination. D'ailleurs, l'Allemagne a créé un troisième sexe pour elle, hein, indéterminé, en début novembre 2013. Donc il y a bien la différenciation biologique, et puis vous avez une différenciation psychologique, qu'on a appelé le genre, bon, qu'on peut appeler le sexe psychologique, si vous voulez. Puis vous avez des personnes qui souffrent d'une distorsion entre leur sexe biologique et leur ressenti. Ça, par exemple, les personnes qu'on appelle transsexuelles, qui veulent changer de sexe, parce que pour elles, c'est une souffrance, ça s'impose à elles, et elles se sentent mal dans leur corps. Donc il y a bien une différence entre la détermination biologique et l'impact psychologique de cette identité sexuelle. Là où il y a une erreur, sans doute, bien sûr, qui est faite aujourd'hui, c'est qu'on dissocie complètement les deux, comme s'il y avait une indifférence entre les deux registres. En fait, des études maintenant, notamment en neurosciences, montrent que même s'il y a des personnes qui ont des orientations sexuelles différentes par rapport à la majorité, il y a bien une influence du sexe biologique sur la psychologie et donc sur la vie sociale. Il y a bien des réactions plutôt féminines ou des réactions plutôt masculines, même si on peut pas enfermer les hommes et les femmes dans des stéréotypes figés, hein, puisque vous avez une variabilité. Donc, on a pris une distinction légitime entre le sexe biologique et le sexe psychologique, on l'a durci, et après on l'a politisé, c'est-à-dire qu'on a dit, ben donc, il faut se débarrasser de cette identité homme-femme, masculin-féminin. Et c'est là où commence donc l'erreur, effectivement, politico-juridique de dire donc il faut que le droit consacre une indifférenciation sexuelle. L'éducation est liée à cela, ça on en parlera sans doute, mais, hein, c'est-à-dire que il faut aider un garçon et une fille à prendre conscience de leur corps sexué et à mieux devenir homme ou femme. Donc, pour reprendre le mot de Simone de Beauvoir, on est homme ou femme, du verbe naître, et on le devient aussi. C'est pas parce qu'on le naît qu'on le devient automatiquement. On a besoin d'intérioriser, de bien ressentir, d'être bien dans sa peau, de bien se ressentir en tant qu'homme ou en tant que femme.
Ce qui, en l'occurrence, la citation de Simone de Beauvoir est juste.
Donc, Simone de Beauvoir disait, on ne naît pas femme, on le devient. Il faut dire, on est femme et on le devient.
D'accord. Peut-être avant qu'on prolonge, vous me disiez pendant la pause que évidemment cette pensée est très répandue. Alors celle que vous venez de décrire, on va dire son pouvoir d'influence, peut-être pas, on va peut-être pas décrire son entrée dans l'école en France, parce que ça on fera un peu plus tard dans l'émission. Mais qu'est-ce que ça représente en fait ? C'est-à-dire que ça plane, c'est dans l'air, mais ça concerne quelques milieux minoritaires aux États-Unis et quelques ministres décidés en France, ou est-ce que de fait ça a une puissance, on va dire, de frappe intellectuelle et politique importante ?
Eh bien, il y a une évolution surtout juridique. C'est là où est le fond de la question. C'est-à-dire que il y a un changement dans les droits de l'homme. En gros, une évolution entre, d'une part, les droits de l'homme, c'est-à-dire les droits de l'être humain que je comprends dans son donné de nature, hein, pour faire rapide, les droits de la personne humaine, la dignité de la personne humaine dans son identité sexuée. On est passé à des droits de l'homme où j'ai droit à ce que je désire, quels que soient mes désirs, et quels que soient mes choix ou ce qui s'impose à moi dans mes désirs, y compris sur le plan sexuel. Donc, le droit dans les sociétés individualistes radicales, hein, qu'on appelle libérales, libertaires, c'est-à-dire le droit suit cette évolution. Donc c'est pas tellement une évolution uniquement philosophique ou scientifique ou politique, c'est aussi une évolution juridique. Parce que quand une minorité demande une reconnaissance, le droit actuel acte cette reconnaissance et acte les droits. Et donc, j'ai droit à mon identité, quelle que soit mon identité biologique. J'ai droit à mon identité psychologique ou mon identité subjective.
Et donc, pour répondre à la question, ça veut dire que donc on est passé des droits de l'homme à mon droit, en fait, hein, pour faire court.
Voilà.
Mais au-delà de ça, c'est, on va dire, la description générale. Mais est-ce que, de manière plus précise, il y a de fait une force de frappe, je disais, politique importante.
Oui, mais c'est une force de frappe du contexte individualiste actuel. Il y a un consensus pour dire, oui, chacun a droit de faire ce qu'il veut. Mais si chacun a droit de faire ce qu'il veut, tout est possible, y compris des changements de sexe, y compris l'indifférenciation sexuelle, y compris la négation de l'homme et de la femme. Et c'est là où on est passé, peut-être, de droits de l'homme fondés sur quand même une identité de l'homme qu'on essaie de comprendre par rapport à l'animal, par exemple, et dans la différenciation sexuée, à des droits purement subjectifs, purement affectifs, de l'ordre du ressenti, et où toutes les minorités dites sexuelles peuvent avoir droit à leurs différences à égalité avec les autres. Donc on a une indifférenciation généralisée avec ce qu'on a dit précédemment sur ce qu'on appelle de manière rapide la French Theory, c'est-à-dire bien sûr appuyée sur des argumentations philosophiques.
Alors si on continue, en gros cette théorie donc a tendance à dire qu'il n'y a pas de nature, il y a une culture, mais dans ces cas-là on peut en être maître d'une certaine manière, en tout cas cette nature ne nous enferme pas. On est libre, on va dire, de décider de la culture qui va avec, et donc il y a une espèce de primat de la volonté, en fait, sur la réalité. Qu'est-ce que ça comme incidence, on va dire, philosophique, vous qui êtes d'abord philosophe ?
Alors, c'est à la fois une incidence philosophique et à la fois le fruit d'une philosophie. C'est-à-dire que on est passé des droits de l'homme, d'un homme que j'essaie d'ancrer dans une nature, dans un donné, hein, non pas figé, mais dans un donné premier, à un homme qui se définit librement selon ses choix personnels, individuels et subjectifs. Et donc, on a aujourd'hui effectivement ce qu'on appelle le volontarisme juridique. Hein. C'est-à-dire, j'y ai droit parce que je le veux, et je le veux parce que je le désire. Donc j'ai droit à ce que je veux, j'ai droit à ce que je désire, et la société doit me donner cette identité que je désire. Et donc on a un droit abstrait, hein, un droit qui a quitté effectivement l'ancrage biologique, hein, sans le ramener au biologique bien sûr, pour un droit qui est complètement subjectif et abstrait. Et donc on a un droit qui fait appel à la pure liberté, à la pure volonté conçue comme pure liberté. Donc c'est un droit abstrait, et on sait maintenant dans le domaine de la psychologie...
Ce que vous venez de dire, c'est audible en fait. Vous disiez que votre ouvrage vous a permis de discuter un petit peu, ou en tout cas d'être classé parmi ceux qui sont contre la théorie du genre, enfin pas contre la théorie du genre, mais contre ces incidences, on a bien compris, plutôt sociales et politiques. Ça vous a permis de discuter avec un certain nombre de personnes. Est-ce que ça, c'est ce que vous venez de dire, est audible par ces dernières personnes?
Aujourd'hui, non, ce n'est plus audible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, il ne faut pas, bien sûr, que ça soit une question religieuse, hein, même si on est dans une radio religieuse catholique. C'est pas une question de religion, c'est une question d'anthropologie fondamentale. Non, aujourd'hui, il n'est plus audible de dire qu'on va limiter la liberté des individus. Même les juristes, même au niveau européen, au niveau mondial, la tendance est de dire le droit suit la liberté des individus, notamment dans le domaine sexuel. D'où la question du queer, la théorie queer, et d'où le fait que les pratiques sexuelles doivent être aussi légitimes que simplement la relation homme-femme, sexuelle homme-femme. Toutes les orientations, toutes les pratiques sont des droits. Et je crains qu'aujourd'hui ça soit très peu audible de dire l'inverse.
Alors, si on continue, évidemment, qui dit qu'il n'y a pas de, on va dire, qui dit que la nature biologique peut être dépassée, on va dire, ou peut être changée, ou peut évoluer, dit forcément que la filiation biologique est remise en cause. Du coup, on voit, et en l'occurrence, c'était la grande crainte autour de la manif pour tous, enfin, la crainte sous-jacente, on se disait, après cette loi, la loi Taubira, ça sera l'adoption par des personnes homosexuelles, voire des personnes transgenres, d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se fait ce saut entre la filiation biologique et ce qu'on appelle la filiation sociale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, on ne fait plus des enfants parce qu'un homme et une femme se rencontrent, ou pas d'abord.
C'est l'évolution du droit qu'on a décrite, qui est une évolution sur la primauté de l'individu dans sa subjectivité, dans ses choix libres, absolument libres, et concomitante, hein, avec l'évolution de la science. La science donne pouvoir à l'individu de procréer sans passer par la différenciation sexuelle, sans passer par l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Et effectivement, on est passé d'une filiation biologique à une filiation morale, au sens non pas de l'éthique, mais au sens affective, c'est-à-dire que je reconnais le lien parce que je le reconnais dans mon affectivité, indépendamment du biologique. Donc, comme la science peut faire ce qui était imaginable il y a même 30 ans ou 20 ans, alors à ce moment-là, la science me donne des droits, et ces droits vont dans la différenciation. La question de la loi Taubira, c'est pas tellement le mariage homosexuel qui était en jeu. C'est qu'au-delà du mariage homosexuel, on veut déconstruire, hein, déconstruire complètement tout pouvoir du biologique et du naturel sur la liberté humaine. Et la science vient au secours de cela. Ce qui fait que vous avez une connexion très forte entre cette radicalité du queer, cette théorie queer.
Qu'est-ce que veut dire la science vient au secours de cela?
La GPA, la PMA. Ce qui était impossible avant devient possible. La PMA était inconcevable il y a 30 ans. Maintenant, on peut faire des PMA.
Procréation médicalement assistée,
fécondation in vitro, la GPA, les mères porteuses, on implante un ovule, on féconde un ovule, on l'implante dans une femme. Ça, c'est inimaginable. Et donc, la science vient me donner les moyens de ma liberté. Et il y a une conjugaison très étroite entre le droit et la science. La science me donne le droit maintenant, hein, le pouvoir et le droit. Et donc par rapport à la science...
Vous voulez dire que la science maintenant fait le droit, c'est ça?
La science donne au droit les moyens de réaliser cette liberté de l'individu. Donc le droit va reconnaître à la science la possibilité d'échapper à la nature et d'échapper à la filiation biologique. Et effectivement, l'enfant devient un produit de laboratoire, un produit manufacturé, un produit qui n'est plus le fruit de l'union de l'homme et de la femme, ou qui n'est plus le fruit d'une adoption d'un homme ou d'une femme et d'un couple, mais c'est le fruit d'un lien purement subjectif, quels que soient les individus et quelle que soit l'identité sexuée des individus. Il y a une désincarnation de l'enfant.
Il faut dire que même si aujourd'hui en France, donc ce n'est pas encore le cas, c'est déjà le cas ailleurs dans d'autres pays.
Bien sûr, mais je ne vois pas en quoi, à un moment donné, ça viendra pas en France. C'est-à-dire que il y a une pression internationale pour reconnaître que les individus ont droit à l'enfant, puisqu'ils ont droit à des liens affectifs et que la science peut leur donner la possibilité de réaliser ce droit.
Alors on fait une deuxième pause musicale et puis après vous allez essayer de répondre à cette question. Est-ce que le gender, est-ce que le genre est déjà présent dans les écoles? Alors évidemment un certain nombre d'auditeurs savent que c'est déjà en partie le cas, mais pour le grand public c'est parfois on imagine que c'est un fantasme. Donc Michel Boyancé nous expliquera ça après cette deuxième pause.
J'arrive pas à m'y faire, trop de larmes, trop de peine, trop de haine et trop de guerre. Cette vie sombre laisse un sentiment amer. On vit loin du paradis et bien trop près de l'enfer. C'est si triste, toujours les mêmes à l'aise et les mêmes qui subissent dans le plus grand silence, mais il faut qu'on réagisse. Je ne perds pas espoir de voir un jour le peuple uni dans la paix, dans la joie et l'amour. J'aimerais tant qu'il cesse de régner dans la haine, si enfin il y a une justice, qu'elle intervienne. Pour les uns comme pour les autres, pour les riches comme pour les pauvres,
on soit réellement libre et beau.
On rêve d'une vie meilleure, plus de joie, moins de pleurs, beaucoup plus d'amour dans nos cœurs. Je peux pas refaire le monde, mais laisse-moi y croire. Tant qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'espoir. Hey, on rêve d'une vie meilleure, plus de joie, moins de pleurs, beaucoup plus d'amour dans nos cœurs. Je peux pas refaire le monde, mais laisse-moi y croire. Tant qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'espoir. Hey,
c'est vrai que je peux pas refaire le monde, mais moi j'ai décidé de positiver. Avec la foi et l'aide du ciel, un rêve peut devenir réalité. Regardons les choses en face, l'œil du mal nous menace. Il n'y a que l'amour qui pourra nous sauver. On périra par les flammes si on ne baisse pas les armes. La lumière disparaîtra sous l'obscurité. Chaque jour je me demande dans quel monde vont évoluer les prochaines générations. Je pense à nos enfants livrés à eux-mêmes face aux problèmes sans solution. Changeons le cours du temps en s'investissant et en prenant les bonnes décisions. Tous dans le même sens, dans la bonne direction.
On rêve d'une vie meilleure, plus de joie, moins de pleurs, beaucoup plus d'amour dans nos cœurs. Je peux pas refaire le monde, mais laisse-moi y croire. Tant qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'espoir. On rêve d'une vie meilleure, plus de joie, moins de pleurs, beaucoup plus d'amour dans nos cœurs. Je peux pas refaire le monde, mais laisse-moi y croire. Tant qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'espoir.
Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, donc, cette émission Genre, faut-il trembler? Donc, avec le doyen de l'IPC, Michel Boyancé, faculté libre de philosophie et de psychologie à Paris. Michel Boyancé, qui est donc de passage à Toulouse. Alors, dans cette troisième partie d'émission, après nous avoir détaillé en deuxième partie davantage, en fait, en quoi consiste cette théorie du genre, et puis, on va dire, toutes ces conséquences culturelles, politiques et ses conséquences en matière de filiation. Je voulais voir avec vous, donc j'avais intitulé cette partie le gender à l'école. Alors c'est vrai que on en entend parler, parfois on est au courant de manière précise, mais parfois moins. Il y a beaucoup de peur, alors on imagine parfois que c'est des fantasmes autour de cette question. Qu'en est-il exactement? Alors quand vous voulez commencer par exemple par ce film, si je me trompe pas, Le baiser de la lune, hein, donc qui a été à un moment introduit dans les écoles, on va dire que le gouvernement a fait marche arrière. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot en commençant par ce film? Qu'est-ce que c'était que ce film? Quel était son propos? Et puis pourquoi les autorités ont fait marche arrière?
Oui, c'est un film qui mettait en scène des poissons qui tombaient amoureux et qui symbolisaient l'amour homosexuel. Hein. C'est un film plutôt pour que les enfants ne jugent pas les personnes homosexuelles et considèrent qu'il est légitime que des personnes du même sexe puissent s'aimer. Alors, il y a une intention légitime dans cette pédagogie qui est de ne pas juger les personnes, de ne pas les condamner, de respecter, je dirais, dans les sociétés démocratiques, des choix différents des nôtres. Mais la question n'est pas là, en fait, sur le plan pédagogique. D'abord, il vaut mieux laisser cela aux familles et aux parents. Donc il ne faut pas que l'école prenne en main ce qui relève du cercle familial et du dialogue familial. Il faut encourager le dialogue familial sur ces questions-là et aider les parents, aider les familles à avoir des outils de dialogue et de discernement, plutôt que l'école s'occupe de rentrer dans cette intimité-là, hein, des enfants. Donc c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'au-delà de cette bonne intention d'aider les enfants à ne pas juger, il y a au-delà, encore une fois, de cette question de l'homosexualité, quoi qu'on puisse en penser, quoi que le droit puisse évoluer dans ce sens, il y a surtout derrière l'éducation à l'école à l'égalité homme-femme et à la parité homme-femme, la question de que cette égalité ne doit pas être perçue comme une indifférenciation des identités. Et là, le gouvernement a aussi fait un peu marche arrière par rapport aux pédagogies sur l'égalité, parce qu'il y a deux ans, il y avait effectivement des outils pédagogiques qui n'étaient pas simplement là pour que les garçons respectent les filles et les filles respectent les garçons, mais qui étaient là pour manifester qu'il n'y a plus d'identité sexuée, il n'y a plus de garçons et de filles, les rôles sont interchangeables, les sexes sont interchangeables, et on était dans le féminisme de la troisième vague. Et au sein du gouvernement, les féministes de la deuxième vague ont dit « Mais attention, il faut pas non plus indifférencier l'éducation. » Il y a des pédagogies innovantes aux États-Unis ou en Europe du Nord. Il y a eu une école ou deux en France qui a été expérimentée. Où, par exemple, on va dire « On éduque les garçons et les filles comme si c'était pas des garçons et des filles. Même pour les toilettes, hein, il faut que les garçons aillent aux toilettes comme les filles. Tout doit être identique. » On va trop loin et il faut que les parents soient attentifs à cela parce que ça touche l'intimité des enfants. C'est pas parce que le genre désigne une construction psychique du sexe, qui peut être tout à fait légitime, qu'il faut considérer que le sexe n'est qu'une construction purement subjective de la culture ou de l'individu. Il y a bien un ancrage biologique à notre identité sexuée dans le respect d'orientations qui peuvent être différentes. Et donc, effectivement, les outils pédagogiques peuvent être assez redoutable si on n'y prend pas garde et surtout remplacer le dialogue familial. Donc il faut que les parents interrogent les maîtres dans les écoles, les professeurs, interrogent les outils pédagogiques pour voir un peu ce qu'il en est. Je crois qu'on est revenu quand même à quelque chose de plus raisonné et que tous ces outils ont été quand même
sous la pression.
Sous la pression et sous la prise de conscience qu'on allait trop loin.
La prise de conscience de qui?
Je pense des milieux féministes même, qui ont se rendu compte qu'on pouvait pas non plus éduquer des enfants comme s'ils n'étaient ni des garçons ni des filles, et ils étaient quoi? Un enfant a besoin de sécurité, hein, psychiquement, psychologiquement, et l'incertitude sur le sexe est quelque chose d'extrêmement insécure pour un enfant, et qui peut entraîner certainement des interrogations, voire des souffrances importantes. Hein. Donc il est important que les familles se saisissent de ça et peut-être aider plus les familles à rentrer dans ces considérations-là, dans le dialogue avec les enfants, que ce soit l'école qui s'empare du sujet.
Alors, si on continue, il y a aussi un certain nombre de manuels donc qui existent. Alors là, si je me trompe pas, ils n'ont pas été retirés. Entre autres, un manuel donc aux éditions Hachette. On ne donnera pas exactement le titre. Donc, manuel qui a été analysé entre autres par Xavier Lacroix, hein, donc qui est assez connu, donc philosophe lui aussi, si je ne me trompe pas.
Théologien.
Théologien. Voilà, qui travaille donc à l'Université catholique de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot peut-être de ces manuels scolaires? Est-ce que ces manuels scolaires, ils existent à la marge? Si oui, comment on s'en sert? C'est souvent des manuels donc pour des classes, on va dire, plus avancées. C'est pas pour les primaires et les maternelles. Et entre autres pour les cours de SVT.
Voilà. Alors c'est
Ils sont nombreux et qu'est-ce qu'ils disent exactement ces manuels?
En mai-juin 2011, donc bien avant les questions autour de la loi de Taubira, il y a eu déjà une première réaction médiatico-politique sur le sujet du genre à partir de la publication de ces manuels de sciences des vies de la Terre, SVT, des classes de première LES, hein, pour être bien précis. Et on a introduit dans ces manuels de SVT des notions sociologiques qui n'appartiennent pas au SVT. Donc ça a été une erreur méthodologique, car les programmes eux-mêmes ne parlaient pas de ça. Et il y a des manuels plus ou moins radicaux selon les éditeurs. Alors, j'ai pas étudié les dernières éditions des manuels, mais je dirais que tous les travaux qui ont eu lieu depuis ont permis aux professeurs d'y voir à peu près clair, c'est-à-dire de ne pas mélanger le biologique et le psychosociologique, alors que ces manuels, certains manuels, notamment celui analysé par Xavier Lacroix, mélangeaient allègrement les deux, comme si effectivement le sexe biologique n'était que une pure mécanique, alors que le sexe n'était en fait que sociologique et culturel. Voilà. Donc il y a eu effectivement une montée de cette théorisation radicale du genre, et puis bien sûr après, en 2013, hein, la question autour de la loi Taubira, qui a accentué les questions. Je crois que maintenant on est revenu, aussi bien dans l'enseignement public que dans l'enseignement catholique, avec des travaux qui sont parus, à quelque chose de plus sage et de plus mesuré, pour laisser surtout la liberté aux élèves.
Quelque chose de plus sage et plus mesuré, ça donne quoi exactement?
Ça donne le fait que...
C'est quel type de discours?
C'est un discours qui dit il y a un ancrage biologique à la sexualité, incontestablement. Il y a ensuite des orientations sexuelles psychologiquement définissable, indépendamment du biologique, qu'on a bien repéré, dont on parle facilement, bien sûr, l'homosexualité, la transsexualité, l'hétérosexualité, qui sont des orientations, mais on ne peut pas aller jusqu'à l'indifférenciation des identités sexuelles. C'est là le cœur de la question. C'est quand on refuse de parler de l'homme et de la femme, du masculin et du féminin, comme un donné premier à mon existence individuelle. À partir de là, on peut appréhender les orientations sexuelles de manière différente, mais sans renoncer à cette première identité qui est que nous sommes des hommes et des femmes en relation avec l'enfant et qu'à un moment donné, une société ne peut pas ne pas reconnaître cet ancrage. Donc les manuels ne vont pas jusque-là et présentent des méthodologies donc en biologie et en sociologie que les professeurs doivent respecter en laissant la liberté aux élèves sur le plan éthique, sur le plan moral et sur le plan spirituel.
Alors, si pour finir cette émission, peut-être on peut dans cette partie école, on peut parler donc de la formation des enseignants. Alors là, on a entendu parler, donc ça avait été lancé à la demande de Vincent Payon, donc et de Najat Vallaud-Belkacem, un ABCD de l'égalité. Donc il a s'adressé plus aux formateurs. Qu'est-ce que ça veut dire un ABCD de l'égalité? C'est gros, c'est un manuel en fait de conduite sur ces questions à l'adresse des enseignants du secondaire.
Voilà, mais il y a 3 ans, ils ont lancé ça, et puis maintenant c'est fini. Ils sont allés plus vers une égalité homme-femme dans le respect des différences hommes-femmes. Alors que dans les ABC de l'égalité, on mélangeait un peu les points de vue. L'homme et la femme sont égaux, mais est-ce qu'ils sont bien encore différents? Est-ce que l'égalité, c'est pas d'aller vers la suppression des différences? Ça, c'est le féminisme radical de la troisième vague, si vous voulez, dont on a parlé, qui aboutit à la théorie queer, en fait. Là, aujourd'hui, on est revenu à quelque chose d'un peu plus mesuré, du moins officiellement. Ça ne veut pas dire que dans certaines écoles, ne traîne pas encore cette idée de l'indifférenciation sexuelle. C'est là où il faut un dialogue entre les parents, les enseignants, pour bien savoir ce qui est dit et ce qui est proposé aux enfants.
Ce qui veut dire que pour finir, en fait, on a l'impression qu'il y a, enfin, vous avez pas un double discours, hein, mais vous dites qu'à la fois, on va dire, socialement et politiquement, comment dire, la théorie du genre en fait prend et que on va dire qu'elle risque de s'installer, pas la théorie du genre, en tout cas ses incidences sociales et politiques, y compris, vous avez l'air de dire, l'adoption par des personnes homosexuelles, et en même temps à l'école, vous avez l'air de dire que la raison semble gagner tout à chacun.
Oui, pour les enfants, c'est-à-dire que les professeurs des écoles sont conscients qu'ils ne doivent pas manipuler les enfants dans des constructions ou des déconstructions d'adultes sur leur identité de garçon-fille. Le bon sens revient, si vous voulez. Et je pense qu'il faut travailler ce retour du bon sens, qui peu à peu va, espérons, regagner la société, pour éviter que même si on ouvre des droits à des personnes selon leurs orientations, ça ne remet pas en question l'ancrage fondamental qui est « nous sommes bien des hommes et des femmes ». D'ailleurs, beaucoup de personnes homosexuelles sont homosexuelles en tant qu'hommes et en tant que femmes. Elles ne renoncent pas pour autant à leur identité d'homme ou de femme. Et elles ne renoncent pas notamment à la primauté de la filiation biologique. Hein, donc on est, je pense, dans un moment où on va peu à peu revenir à du bon sens. Mais c'est vrai que les théorisations intellectuelles dans les manuels scolaires, dans les milieux universitaires, dans les milieux politiques, ont donné l'impression qu'on était dans une espèce de perspective d'indifférenciation radicale. Mais quand on va sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a quand même une résistance du bon sens sur le sujet.
Merci Michel Boyancet d'être venu nous parler donc du genre. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Francky Guéret. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.